Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à l'antenne d'Aligre FM sur le 93.1. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Version originale et une nouvelle saison qui s'ouvre à l'antenne du 93.1. Après avoir publié « Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde », Steve Wilfried Mungengi écrit un deuxième récit qui n'est pas la suite du précédent. J'ai toujours marché avec ces rêves en moi, ces SES. J'ai toujours marché avec ces rêves en moi, paraît aux éditions du Mot Conduit. Qui suis-je quand je dis je? Quel événement dans l'enfance m'a mis sur la route, m'a poussé à quitter Mouila, ma ville natale, et plus tard à partir vers la France? Ainsi s'ouvre sur ces questions « J'ai toujours marché avec ses rêves en moi ». Bonsoir, c'était Wilfried Mungengi.
Bonsoir Patrick, et merci encore de me recevoir.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM. Donc on s'était déjà rencontrés pour... tu as fait de moi celui que je me demande, absolument. Et dans ce récit, donc, vous retracez votre cheminement afin de trouver, on va dire, la source des rêves qui font avancer l'enfant que vous étiez. Vous explorez la présence, le rôle de votre père dans la construction de vos rêves et vos désirs. Ce récit nous fait entendre, même si effectivement c'est vous qui parlez, qui vous exprimez dans le texte, mais il nous fait entendre, je veux dire en souterrain, la voix de votre père instituteur. Alors, donc je rappelle que vous avez publié, donc je le disais, « Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde » aux éditions du Mot Conduit. Vous avez écrit également des livres de poèmes, « L'énigme des ruines », L'autre rivage de la nuit, ainsi que Cahier d'adieu à la mélancolie. Alors, première question, Steve Wilfried, c'est que les deux titres, hein, donc Tu as fait de moi celui qui enjambe le monde et le dernier, il y a cette évocation de mouvement, il y a les jambes, il y a le mouvement du corps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc de cette familiarité entre ces deux titres, du côté donc enjamber le monde et l'autre marcher? Enfin, c'est ce que j'ai noté dans, comme point commun avec vos deux titres. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Disons que la marche, c'est un peu la vie. J'ai le sentiment depuis que j'ai quitté Mouila pour aller étudier à Libreville et puis pour plus tard venir étudier en France. Je me suis mise à marche et que la marche est comme ça quelque chose qui caractérise tous ceux qui partent d'un lieu, notamment du lieu natal, pour s'étirer jusqu'au lieu où ils rêvent plus ou moins de faire ou d'accomplir leur vie. Et dans ce lieu-là, et une fois qu'on a entamé ce geste-là, on ne s'arrête plus d'être en mouvement. Et dans ces deux titres, on retrouve effectivement cette idée du mouvement, l'enjambement d'abord parce que je suis entre deux rives, hein, une rive de Seine et une rive du fleuve qui m'a vu venir au monde, Langounier, et puis marcher parce que j'ai toujours ce sentiment d'être quelqu'un qui n'a cesse d'être sur la route et qui porte dans sa besace des rêves.
Je le disais, donc votre père est donc au centre de ce récit. Pour vous citer en page 26, Steve Wilfried Mungengi, je vous cite, c'est au cours de ces soirées, alors que nous étions assis autour des récits de notre père, que naissaient mes chimères. Elles étaient d'abord l'écho de ses rêves à lui. J'ai toujours marché avec ses rêves en moi. Donc là, on est au centre du récit. Comment est-ce que, en plus de ce que vous disiez à votre père, comment est-ce que vous avez tout de suite compris qu'il fallait que vous réalisiez un peu les rêves qu'il n'a pas su réaliser lui?
Disons que dans l'enfance, on constatait lorsqu'il... En tout cas, moi, je le constatais, je ne sais pas trop pour mes frères, Mais je constatais bien qu'il y avait quelque chose en lui qui voulait que nous accomplissions ce que lui-même aussi aurait pu devenir, parce qu'il est instituteur et il a un regard particulier sur les études. Et pour lui, c'était important. Il faut dire que nous sommes la deuxième génération. J'appartiens à cette génération, la deuxième, j'ai envie de dire, après les indépendances, puisque mon père appartient à celle des indépendances. Nous, on arrive juste après et l'école est investie d'une certaine puissance. C'est par elle, dans ces jeunes nations-là, qu'on est censé devenir quelqu'un, s'accomplir. Et pour lui, il est clair qu'il a arrêté en chemin ses études parce qu'il a eu très vite des responsabilités et ça se voyait qu'il attendait de nous, que nous puissions poursuivre le geste que lui avait dû interrompre à un moment donné. Et ça, je le perçois enfin. Je le perçois enfin, peut-être pas avec la même acuité qu'aujourd'hui, mais je le sens bien en le regardant. Et je le sens aussi dans la répétition de ce récit qui nous dit « Les enfants, faites l'école, c'est important de les faire et au possible les plus longues. »
Et vous soulignez donc, même si en effet, alors déjà, il faut rappeler qu'il est instituteur.
Absolument.
Même s'il aurait aimé faire plus que ce qu'il a fait intellectuellement, au point de sa formation, mais quand même, il enseigne.
Absolument.
Ses facultés intellectuelles, à vos yeux, sont bien réelles.
Oui.
Et vous décrivez vraiment, quand il parle, vous décrivez ses gestes, ses mains. Il y a toute cette approche-là de son être. Alors, en même temps, vous écrivez avec une certaine pudeur. Hein, ça reste quand même... Vous dites ce que vous aviez à dire, Esther Wulfried-Mwangangi, mais toujours avec une certaine pudeur. On sent un certain respect pour le père, même si vous parlez de ses mains qui les décrivent.
Absolument.
Alors, j'aimerais aussi que vous nous disiez... il insistait sur le fait que vous deviez parler, je cite... Parler un français impeccable. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie un français impeccable? Et est-ce qu'à l'époque, pour vous, c'était un marqueur sociologique fort, ce français?
Très clairement, deuxième génération, après les indépendances, on est dans les années 80. Oui, c'est important de parler français. Il faut le parler conformément au dictionnaire, conformément au livre que nous lisons. Et lui, en tant que... qu'instituteur, c'est un gardien de la langue. Et très clairement, il nous dit, lui qui ne nous parle d'ailleurs le plus souvent qu'en français, c'est notre maman qui utilise le pounou, lui qui nous parle souvent en français, il nous dit il ne faut pas mettre des mots pounou, il ne faut pas les mélanger au français pour faire ce qu'il appelait du franc pounou.
Et le pounou, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est, pardon?
C'est sa langue. C'est sa langue à lui, sa langue maternelle, celle de notre mère. Donc la langue qu'ils étaient censés tous les deux nous transmettre. Mais ce n'est pas celle-là que... il ne nous interdit pas de parler, même s'il ne parle pas beaucoup cette langue avec nous. Mais il refuse que nous mêlions, ce qui était le cas quand nous étions enfants. On avait tendance dans la même phrase à mettre à la fois le français et des mots pounou. Et il me disait non, soit on parle en pounou, soit on parle en français. Et le choix se portait plus vers le français que dont lui-même il en avait un usage docte.
Alors tandis que votre grand-père, son père, ne parlait pas le français.
Non, son père... qui avait été sur les chantiers et qui était un ouvrier après avoir été aux travaux forcés lui-même sur les chemins de fer du Congo océan. Ce père-là ne parlait pas français puisqu'il n'avait pas été à l'école des Blancs. En revanche, il s'enorgueillissait de ce que son petit-fils, mon grand frère, Cao Régis, use du français, comme disait-il, un français de France.
Et en même temps, c'est aux yeux de certaines personnes, cette langue française était perçue comme étant en quelque sorte la langue du vainqueur également. Comment justement apprendre à ce moment-là, apprendre à distinguer ce qui relève de l'héritage du colonialisme de ce qui ne relève pas de cet héritage en tant qu'enfant, comment on arrive à faire cette distinction? Est-ce que cette question se pose à ce moment-là?
En tant qu'enfant, non. Non, non, non. Nous savions que c'était important de parler le français, parce que de toutes les manières, pour advenir, pour se réaliser, et c'est en cela que c'était un marqueur sociologique fort, pour devenir quelqu'un dans la société qui était en train de naître, c'est-à-dire ce Gabon des indépendances, il fallait maîtriser le français. L'avenir appartenait à ceux qui parlaient cette langue-là. Et nous, dans cette enfance, nous ne nous rendions pas du tout compte de cela. Bien au contraire, on arrive et on est emmailloté, pris dans ce mouvement. Et on considère, en tout cas dans l'expérience et dans le souvenir qui est le mien, je suis tout à fait dans l'idée que il faut absolument parler le français et oublier d'une certaine manière le puno, qui n'allait pas servir à grand chose puisque c'était la langue indigène, celle que l'école nous interdisait de parler et celle que nous célébrions quand nous étions entre nous. Dès que l'un de nous parlait trop en puno ou ne parlait qu'en puno, nous le traitions de villageois.
Avec vos amis, les enfants de votre âge, quelle langue parliez-vous?
On parlait en français.
Aussi en français?
Aussi, oui. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé dans mes jeunes années, lorsque mon père a déménagé de la capitale économique, Port-Gentil, pour Mouila, les enfants autour de nous parlaient beaucoup le puno. Et nous, quand nous sommes arrivés, nous ne parlions pas du tout le puno. Nous avons la langue à l'usage que nous avions, c'était le français. Et on va transformer comme ça, d'une certaine manière, avec les autres, on va transformer, puisque les autres vont se mettre aussi à parler, déjà à l'intérieur de la famille, hein, nos cousins vont se mettre à parler en français, alors qu'ils parlaient le puno. Et notre propre grand-mère, puisque nous habitions chez elle,
Mémé va se mettre à
baragouiner quelques mots, parce qu'il fallait bien qu'elle nous rattrape, qu'elle réussisse à nouer cette conversation avec nous. Et nous nous moquions d'elle, d'ailleurs, en ce temps-là. Et on ignorait totalement que nous étions les hussards, j'ai envie de dire, la République coloniale.
Stéphanie Fried-Mongengi, vous découvrez donc, vous faites référence à une encyclopédie dans laquelle vous découvrez la philosophie, la pensée d'Hegel, de Kierkegaard, de Nietzsche. Dans le même temps, vous découvrez aussi, donc tout ça par l'intermédiaire de votre père, même si c'est pas directement, il ne vous dit pas de lire ça, mais c'est grâce à lui, parce qu'il a ces livres-là. Vous découvrez des écrivains noirs américains comme Langston Hughes, Dubois, également de grands personnages, de grandes figures comme celle de Martin Luther King, Angela Davis, Rosa Parks pour qui vous avez une fascination
ouais.
Tout à fait, et à juste titre d'ailleurs. Mais aussi une collection de livres consacrés aux grands résistants africains de la colonisation, Lat Dior, Samori Touré, entre autres. Quand on voit ce mélange, d'une part donc, de philosophie, on va dire, européenne, occidentale, d'intellectuels noirs américains, également de grandes figures intellectuelles d'Afrique. Qu'est-ce que ça dit de votre père, qui en même temps accorde une grande importance à la langue française, comme vous le dites, à la langue de l'ancien non-occupant, qui en même temps a est intéressé par toute cette culture, que ce soit celle de l'Afrique et des autres parties du monde. Qu'est-ce que ça dit de votre père? Comment le perceviez-vous?
Comment on le percevait? Déjà, il avait des mots sur la colonisation, tout comme il en avait d'ailleurs sur le pouvoir en place. C'est quelqu'un qui était tout à fait conscient de cette colonisation, et ses livres ne se trouvaient pas là par hasard. Ils étaient là parce qu'il avait voulu, notamment cette collection autour d'Ibrahima Baba Kaké. C'est des livres qu'il reprenait les matins et qu'il lisait. Et ça montre qu'il avait lui-même un regard critique vis-à-vis de l'emprise que pouvait exercer un autre État ailleurs, lointain, sur le devenir du peuple gabonais et des peuples d'Afrique.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
En compagnie de Steve Wilfried Mongengi, qui publie « J'ai toujours marché avec ces rêves en moi », publié aux éditions du Mot Conduit. Vous écrivez également « Mon enfance est perlée de longues errances quotidiennes ». Dans votre mémoire, Steve Wulfried, ce sont les plaines qui occupent la première place. Diriez-vous que vos errances vous ont préparé à l'exil ?
D'une certaine manière, j'ai cette manie de partir. Ma mère raconte, et mon père d'ailleurs, raconte que, alors que je rampais simplement, j'ai été rattrapé par des passants qui m'avaient vu traverser la route avec une natte sous les aisselles. Donc j'arrive pas à savoir exactement comment on fait ça lorsqu'on est tout bébé, mais visiblement je l'ai fait. C'était une sorte de fugue, tout petit déjà. Et on raconte aussi autre chose, c'est que constamment il fallait m'attacher, au point que lorsque la nièce de mon père me gardait, elle avait la manie de me relier à elle par une ficelle, parce que je pouvais disparaître à tout moment. Et aussi loin donc qu'ils m'en souviennent, oui, je suis toujours en train de partir. Mmh. J'ai des souvenirs très clairs de ça, à Gamba, à Port-Gentil. Je suis abonné à la fugue.
Pourtant, lorsqu'on voit, vous êtes plutôt d'un caractère plutôt posé et calme.
Apparemment. Extérieurement. Mais c'est, oui, l'adulte est assez calme. Mmh. Mais toujours travaillé par ce désir de sortir de la maison, d'aller voir ailleurs. D'aller voir ailleurs, et oui, et dans l'enfance, donc je passe de longues heures, mais vraiment des longues heures, parce que j'adore chasser. Et je me demande d'ailleurs si je le fais pour la chasse, parce que je peux chasser autour de chez moi, à Mouila. Il y a à peu près ce qu'on veut à 200 mètres de la maison, si je veux faire de la chasse aux oiseaux. Mais on va me retrouver à 4, 5, parfois 10 kilomètres de là, du côté de Bavanga, par exemple, et là je suis bien loin de la maison. Mmh. Mais c'est aussi le goût de ces grands espaces, en fait, qui m'attirent.
Parce qu'il y a même un endroit que vous nommez Ma Plaine. Qu'elle avait de... Est-ce que vous vous souvenez d'une topographie particulière, d'une sensation particulière par rapport à cet endroit ?
Oui, ce sont les plaines sur la route de Manyunga, sur le chemin de Manyunga. Manyunga, c'est là où il y a les plantations de mes grands-parents. Et donc, on traverse le Dilalous, comme ça qu'on disait. C'est un petit pont sur un ruisseau. Et puis, on traverse une rue qu'on appelle la Ceinture. Et là, on rentre dans la plaine. Cette plaine est coupée par une piste d'aéroport. Et on traverse la piste. Et là, ça commence à partir d'un stade qu'on appelait le stade du 12 mars, sur lequel nous jouions quand nous étions gosses. Et de là, ce sont des grands herbages. Des grands herbages, des termitières. Parfois, ça vallonne un peu, mais c'est très très léger. Et puis on arrive comme ça à Doussama. C'est la rivière qui fait la délimitation entre la plaine et le début de la forêt. Et ça, c'est mon royaume. C'est mon royaume. Après l'école, les jours de congé, c'est mon royaume, celui de mon petit frère Coste qui m'accompagnait un peu partout à cette époque-là.
Et ça, jusqu'à quel âge ?
Ça va durer quasiment jusqu'à la classe de quatrième, lorsque le hip-hop fait son entrée, fait son entrée dans nos vies. Et donc on est au collège, et à partir du collège, oui, le hip-hop commence à s'inviter. Et peu à peu, on rentre dans les modes urbaines et on va de plus en plus délaisser nos modes de vie traditionnels que l'on considérait comme indigènes, arriérés, et qu'il nous fallait absolument quitter.
Et vous dites d'ailleurs que, je vous cite, « L'homme que je suis devenu plus tard a une dette immense envers l'enfant des champs ». Donc, ce qui me porte à vous poser la question, quelle relation, donc, de ce fait, entretenez-vous avec l'urbanisme ? Comment vous sentez-vous en ville ?
Très mal.
Encore aujourd'hui.
C'est une question pertinente. Pendant longtemps, je n'ai pas su d'où me venait mon malaise en France. Et j'ai compris bien assez tard, presque 10 ans plus tard, qu'il me manquait la terre, et que ce que je ne supportais pas, pas faute d'ailleurs de l'avoir écrit, parce que je l'avais écrit dans des poèmes ça et là, mais Mais je ne me rendais pas à quel compte, je me rendais pas compte que c'était existentiel. Il y a vraiment cette idée que la ville, pour moi, haussmannienne, je pense à ça parce que c'est ça qui m'intriguait beaucoup, les bâtiments, ces bâtiments-là. J'ai l'impression d'une étroitesse du monde et il n'y a pas d'horizon.
Aujourd'hui encore.
Et quand j'ai choisi mon logement universitaire, lorsqu'on m'a proposé un logement universitaire pour la première fois, après 2 ans d'attente, au Crous, il m'a été demandé d'aller voir monsieur, il faudrait peut-être que vous alliez sur place, c'est dans le 77, c'est un département, attention, c'est les champs. J'ai dit, mais est-ce que je peux aller voir? Donc j'avais le choix entre ce logement-là et un logement à Paris. Et puis, j'ai pris le RER, je suis allé jusqu'à Lieusaint. Et quand je suis arrivé à Lieusaint, il y avait une toute petite gare à l'époque. Et juste de part et d'autre de la petite gare, débutaient des champs. Et à l'époque, c'était des champs de maïs et quelques fermes. J'ai rappelé, j'ai dit, mon choix est fait, c'est ici que je veux être. Parce que pour la première fois, je retrouvais quelque chose qui me ressemblait. Oui.
Et vous, parfois même, lorsque je lis votre récit, c'est à vous les filles de Mongengi, on a l'impression même que les lieux arrivent parfois même à supplanter les personnes dans vos souvenirs. Par exemple, est-ce que vous parlez donc de la maison du camp de silence. Et comment était cette maison? Est-ce que vous y êtes retourné, par exemple?
Oui, je suis retourné en 2018. En 2018, j'ai revu la maison du camp de silence qui me paraissait rabougrie et qui, dans mon enfance, était immense. C'était une vieille bâtisse coloniale faite de briques rouges recouverte d'un crépi blanc avec des fenêtres aux volets verdâtres, puisque le verre était en train de pâlir déjà en ce temps-là. Et il n'y avait pas de plafond, donc on pouvait voir les tôles et la maison. Il y avait une inscription qui disait qu'elle datait de 1945, donc de la fin de la guerre. En France. Et oui, c'est une maison qui a beaucoup compté pour nous parce que c'était la première maison à Mouila, puisque jusqu'en 1987, nous étions donc de 85 à 87 chez mes grands-parents maternels. Et là, l'État a donné ce logement à notre père qui l'espérait depuis longtemps et nous avec. Et on était enfin chez nous. Et nous allons grandir dans cette maison jusqu'à, donc pour moi ça concerne la classe de CE2 par là, et jusqu'en 1993, donc à peu près la troisième. Donc de belles années passées dans cette maison avec tous mes frères et des cousins qui venaient passer des années avec nous ou juste quelques mois.
Je reçois Stavouli Fried-Mongengi qui publie aux éditions du Mot Conduit « J'ai toujours marché avec ses rêves en moi ». On continue à en parler après la musique de Massive Attack.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Unfinished Sympathy, le groupe Massive Attack. Massive Attack, groupe britannique de Bristol qui refuse que sa musique soit diffusée en Israël et envisage de se retirer de Spotify. Je suis en compagnie de Steve Wulifried Mungangi qui publie aux éditions du mot conduit. J'ai toujours marché avec ces rêves en moi. C'est SES, c'est important, puis il s'agit donc des rêves et des désirs de votre père. On évoquait tout à l'heure l'importance de la nature pour vous, le rapport avec la nature, notamment vos errances dans les plaines et les conséquences que ça a eu sur votre relation avec la vie urbaine. En ces temps où la nature est abîmée, où le dérèglement climatique est donc causé par l'action des hommes, bien sûr, il semble, bien sûr, pour nous tous, de protéger l'environnement, de prendre soin plus que jamais du vivant. Qu'avons-nous, d'après vous, à apprendre de cette approche? Parce qu'à un moment, vous parlez beaucoup des éléments naturels dans le texte, hein, de ce rapport avec la nature, comme s'il y avait une façon de presque de reconnaître une âme aux éléments naturels. Et qu'est-ce que, d'après vous, cette approche peut, comment est-ce qu'elle peut nous aider donc à affronter cette nature qui est aujourd'hui abîmée, qui est une menace pour l'homme? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça, de cette approche?
Je dirais quitter la posture cartésienne de cette volonté de domination de la nature, d'en devenir comme le maître et le possesseur pour retrouver une posture, j'ai envie de dire, horizontale. Et je vais plus loin en disant que pour moi, elle a une âme. Je viens de toutes les manières d'un espace, d'une culture où la nature n'est pas la nature d'ailleurs. Elle n'existe pas en dehors de moi. Puisqu'elle existe avec moi et que je suis en tant qu'humain, nous sommes, en tant qu'humains, un élément de ce tout, tout simplement. Et l'arbre, tout comme le minéral, tout comme l'eau, est mon frère. C'est comme ça que nous avons été élevés. Ma grand-mère, qui est donc mémé, qui est Mwanangang, lorsqu'elle s'apprête à rentrer dans son champ, ou à rentrer dans une rivière, elle a des mots pour ce frère, pour cette sœur qu'elle s'apprête à toucher, à dénaturer, pour le dire ainsi. Elle va donc demander la permission avant de prélever quelque chose, une écorce pour soigner, par exemple. Parce qu'on est bien conscient dans ce milieu-là, dans cette culture-là, que nous sommes la nature et la nature est nous. Il n'y a pas elle et nous en termes d'extériorité et d'altérité. Et nous commençons à comprendre que cela, puisque les scientifiques nous apprennent qu'il y a un langage des arbres. On commence à comprendre que le vivant autour de nous vit, respire, et que même il y a des formes de solidarité. On le voit en étudiant aujourd'hui les champignons, en étudiant le système racinaire des arbres. On commence à comprendre ça peu à peu, mais il a fallu que la science nous amène là. Mais les peuples que l'on dit premiers, ces peuples-là le disent depuis longtemps, sauf que ça passait pour du folklore et de la magie. Donc oui, on a tout à apprendre à reconsidérer ce rapport que nous avons à ceux qui nous entourent et à quoi nous sommes reliés, indubitablement reliés.
Il y a également dans votre récit, Steve Wulifried Mungangi, de très belles pages, de très belles lignes concernant la nuit, la relation avec ce moment où chargé de mystère, où il ne faut pas parler trop fort, où c'est qui sont effectivement qui sont déjà assez proches de ce que nous disions de la nature, où la nuit est une forme de respect. On reconnaît le mystère de des nuits et on s'incline en quelque sorte devant ces mystères-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est dissipé un peu pour vous? Comment est-ce que vous vivez la nuit aujourd'hui?
Je la vis différemment depuis que je suis en France. C'est très clair parce que la nuit, elle est très polluée, très habitée par les vivants. En revanche, quand je suis reparti en 2018, après ces 16 années d'interruption, tout de suite, ça m'est revenu que la nuit, c'est pas le jour et que c'est un espace qui est réservé à ceux qui ne sont pas visibles et qui cependant sont bien présents. Et que ce temps-là, cette partie du temps leur appartient. Et c'est aussi le temps de la transmission, parce que c'est le temps où, la partie du temps où il n'y a pas de bruit. Il y a un silence qui règne et où la voix des anciens devient une sorte de voix oraculaire, puisque c'est le temps qui est choisi par les anciens pour compter aussi, et donc transmettre quelque chose. Je raconte, peut-être pas dans cet écrit, cette grand-mère qui chante à la fin, vers la fin de la nuit, autour de 4-5 heures du matin, et parce qu'elle sait que dans nos maisons, sur nos lits, nous écoutons. Et à ce moment-là, elle transmet quelque chose de l'histoire du clan. Et elle sait que nous sommes à l'écoute et elle nous dit de quel clan nous sommes, d'où nous venons, et elle cite le panthéon des êtres chers qui constituent la lignée de la famille. Et c'est à la fois une façon de nous transmettre quelque chose, mais de maintenir aussi dans la présence ceux qui sont désormais passés du côté de l'invisible. Et on est vraiment toujours dans cette idée que tout existe, tout ce qui a été est toujours là. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce n'est pas là. Et on peut donc étendre ça, hein, comme on le disait tout à l'heure, aux plantes auxquelles, et aux minéraux auxquels on estime, pour lesquels on estime qu'il y a une parole et une respiration, et que ce n'est pas parce que ces choses-là ne parlent pas que nous ne les entendons pas, mais c'est peut-être parce qu'il y a un défaut d'écoute, puisque nous sommes sans cesse attirés et englués dans le bruit et dans l'activité permanente. Et dans ce monde-là, il y a un temps justement pour la respiration, et la nuit, c'est cela. Et c'est peut-être ce qui la rend magique aussi.
Et c'est sans doute une affinité pour... Enfin, ce n'est pas une nécessité, bien sûr. Une affinité pour la poésie permet d'avoir une acuité un peu plus accentuée pour être à l'écoute de tout ça. Est-ce que, par exemple, vous écrivez la nuit?
J'écris la nuit, oui.
Vous écrivez la nuit.
Oui. Oui, et quand on est dans des environnements, quand je suis en tout cas dans des environnements retirés, comme lorsque je fais mes marches, par exemple, lorsqu'on se retrouve dans une nuit de l'Aubrac, dans une nuit des Pyrénées ou des Alpes, il se passe justement autre chose. Dans ces grands espaces-là, qui sont dénués de lumière, en tout cas de la lumière bruyante, j'ai envie de dire, des villes. Là, automatiquement, on sent qu'il y a quelque chose qui parle autour de nous, en tout cas qui parle à nous. D'ailleurs, j'ai toujours le sentiment qu'à ce moment-là, lorsque le vacarme du monde se tait, j'ai toujours l'impression que c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se met à parler en moi, hein, à la fois la voix de ceux à qui je suis relié, mais aussi au maître de philosophie, de littérature, qui constitue la constellation des êtres qui m'ont façonné d'une certaine manière. Dans la nuit, il y a une vraie acuité. On apprend à l'entendre, cette parole qui ne peut advenir que dans ces moments-là.
Et sans aucun doute aussi, les vocations de ces penseurs auxquels vous faites allusion vous ramènent bien sûr à celui qui vous a permis d'y accéder. Je veux parler de votre père.
Absolument, absolument.
Et l'une des dernières parties de votre livre a pour titre « Comment je suis devenu une fiction ». Vous écrivez ici, donc en France, « Je suis devenu mon propre mirage ». Qu'est-ce que cela veut dire, devenir son propre mirage ?
Je me le demande. Non, j'avais vraiment cette impression que je poursuivais un être, une sorte de devenir de moi-même que je voulais absolument trouver, c'est-à-dire un homme qui aurait fait des études, qui est un lettré, qui maîtrise la philosophie, la langue française, et qui accède à quelque chose que je voulais accompli. Or, cet être auquel j'aspirais, je ne le trouve pas. C'est un mirage. C'est dans ce sens-là que j'ai dit je suis devenu moi-même mon propre mirage, parce que je découvre aussi cette condition d'étranger, avec tout ce qu'on fait naître autour d'elle, avec cet être quasiment... auquel on dénie d'ailleurs une forme de pluralité, puisque on n'a pas des immigrés, on a l'immigré, et cet immigré-là, on en a une image, une sorte de parangon comme ça, je dirais, qui fait que toute nuance n'est plus possible. Et à ce titre, je ressemble à tous les autres et tous les autres me ressemblent. On est tous rassemblés dans cette figure du pilleur, de l'assassin, du voleur, etc., etc. Et puis à ce moment-là, je me dis, on n'a pas d'existence en propre en réalité. On est une fiction. La fiction que nous avons poursuivie en se disant que faire des études nous permettrait de gagner quelque chose... en termes d'humanité, mais fiction aussi, parce qu'on se rend compte qu'on est une image qui est fabriquée à travers le regard de l'autre, une sorte de soi, de personne réifiée, en fait, dans le discours, notamment le discours politique, d'ailleurs, ces deux dernières années, on le voit encore un peu plus. C'est dans ce sens que je dis oui, je suis devenu une fiction.
Est-ce que on croit, face à ce constat, à ce sentiment, en quoi l'écriture vous a aidé?
C'était peut-être la seule manière d'exister, de se rappeler à soi-même qu'on n'est pas ce que les images colportées, construites à court de journée racontent, et qu'on n'est pas simplement ce rêve aussi qu'on poursuit, qu'on a une réalité. Et cette réalité-là, je la pouvais retrouver à travers l'écriture, qui est pour moi toujours d'ailleurs le moyen de me relier à quelque chose, hein, quelque chose qui me précède. Je pense à mon père là tout de suite, à ma mère, je pense à mes frères et au peuple auquel j'appartiens. Ça a été l'occasion pour moi de m'ancrer et de faire advenir. C'est-à-dire lorsque j'écris que je viens de Mouila, j'atteins quelque chose qui est ineffaçable, qui me dit que j'appartiens à un peuple, j'appartiens à un pays, et que cela seul suffit pour que je sois humain. Qu'importe ce que l'on dit autour et qu'importe les projections que j'ai pu me faire, pensant à une époque il fallait absolument aller conquérir la lumière parce que il nous était dit qu'elle brûle en Occident.
Est-ce que vous, puisqu'on évoquait justement la nature, est-ce que vous considérez que tout poème ramène à une dimension métaphysique ou spirituelle pour vous?
Oui, absolument. Un poème ramène à quelque chose de... Alors la métaphysique, je ne l'entends pas forcément comme c'est au-delà de la nature, c'est au sens de quelque chose qui la dépasse. Mais je l'entends comme la reprise consciente de ce que nous appartenons à quelque chose, que nous sommes reliés à tout ce qui nous entoure, que ce soit la pierre, que ce soit de l'eau, que ce soit l'air, nous sommes intimement reliés à tout cela. Et tout le geste de la poésie, c'est de se reconnecter à cela, d'entrer en résonance, voilà. C'est toute l'idée, c'est de retrouver cette espèce de résonance entre nous et nous-mêmes. Je ne dirais pas les autres, entre nous et nous-mêmes, nous-mêmes étant le grand tout auquel nous appartenons. Et ce sentiment, ce n'est pas d'ailleurs par hasard que la poésie naît beaucoup chez moi dans ces espaces-là, que sont les forêts, les chemins... Dès lors qu'il y a le silence et qu'on plonge dans une sorte de sentiment océanique.
Est-ce que vous avez aujourd'hui, Stevouli Finmongengi, le sentiment que vous marchez encore avec les rêves de votre père en vous? Comment est-ce que la relation a-t-elle évolué au fil des ans?
Je garde la même fascination que pour mon père. C'est quelqu'un qui exerçait beaucoup la fascination déjà auprès de ses élèves qui, lorsqu'on les croise encore aujourd'hui, disent « Ah, le maître Mongengi ». C'est quelqu'un qui touchait énormément ce qu'il croisait sur son chemin. Et moi, je n'ai pas cessé de trouver. Alors, c'est quelqu'un qui était assez exemplaire, c'est bizarre, dans nos yeux d'enfant. Cette façon qu'il avait de parler, c'est le fait qu'il était constamment, je trouvais qu'il était constamment juché sur sa chair, sur son estrade, et qu'il était en train de donner la leçon, parce qu'il a un ton comme ça, assez calme, comme s'il est toujours en permanence en train de transmettre quelque chose. Et quand je m'écoute, quand je revois le parcours qui est le mien, je me dis, c'est fou combien il a été là, même quand j'avais complètement oublié la place qui était la sienne. Et je me rends compte qu'il est dans les manies, dans la façon de parler, qu'il est dans ma propre gestuelle, dans ma façon de me tenir debout. Pas que la mienne, je vois aussi mes frères. Je le vois beaucoup à travers mes frères, mais mes frères disent le voir à travers moi. Donc ça montre que on a peut-être incorporé une partie du père, de ce père-là en nous. Et il reste donc cette figure inspirante, cette espèce de phare aussi auquel j'avais mon frère en fait aujourd'hui et hier, et on a parlé un peu de ce monsieur, et on voit que pour lui aussi, par exemple mon grand frère, c'est important d'être à la hauteur, de ne pas décevoir de ce père-là.
Et alors la question qui se pose aussi, qui s'est posée, c'est la question de la transmission. Est-ce que le fait d'avoir eu un père qui n'a pas gardé pour lui le savoir, qui vous l'a transmis, qui vous a incité, qui vous a stimulé pour apprendre, pour découvrir les connaissances les plus variées possibles, est-ce que c'était quelque chose d'assez exceptionnel dans votre famille, ou bien c'était assez courant autour de vous?
Non, c'est exceptionnel. Très clairement, nous lui devons beaucoup. C'est exceptionnel. Papa a une bibliothèque. Dans le quartier, il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas d'enfants avec... dont le père a disposé une bibliothèque. En tout cas, dans mon souvenir, je n'en ai pas. La bibliothèque, c'est nous qui l'avons à la maison. Et mon père qui nous incitait, mais qui n'obligeait pas, avait investi beaucoup d'argent pour qu'on ait... C'était des crédits qu'il prenait. Hein. Et ces ouvrages-là, ces encyclopédies, viennent de France. Nous, on est dans une petite ville de province au Gabon. Et il commande ces choses-là et il les met autour de nous. Et c'était à nous de nous en saisir. Et on a été des privilégiés parce que dans cette enfance, mes frères sont excellents à l'école, mais parce qu'ils ont ce capital. On peut le dire comme ça en termes bourdieusien. Nous avons un capital social et culturel qui nous est transmis, oui. En tout cas qui est mis à disposition et dans lequel on va puiser. Moi, je vois bien que plus tard, quand il s'est agi de choisir des études, j'ai choisi de faire des études de philo. Ce n'est que longtemps après que j'ai compris qu'en réalité, mon lien avec la philo a commencé alors que j'étais un collégien et que je lisais Kierkegaard ou Hegel. Je ne dis pas que je perçais le mystère des lettres à ce moment-là, mais je sais que j'étais fortement attiré par des philosophes de ce type-là, qui vont d'une certaine manière d'ailleurs... influencer mon propre regard sur le monde. Je suis absolument fasciné par ces personnages-là. Et donc oui, ça va compter plus tard. Lorsque j'arrive au lycée et que je découvre la philosophie, je suis tout de suite à l'aise. Mais parce que je ne la découvre pas à ce moment-là. J'ai commencé à réfléchir depuis sur la raison dans l'histoire. Alors je suis encore au collège.
Et à quel moment, c'était vous les films Mwangangi, vous avez commencé à écrire des poèmes? On comprend votre affinité pour la réflexion philosophique, pour les philosophes. Et l'écriture poétique arrive quand dans votre vie?
De façon consciente, la première fois que je réunis des poèmes dans un cahier. C'est mon cahier bleu, je suis en classe de 5e par là. Je suis en classe de 5e, alors je suis très en retard à l'école parce que je faisais des fugues. Il faut regarder tu as fait de moi. Et donc oui,
des fugues, oui, des errances dans les plaines.
Je n'aimais pas l'école, très clairement. Et oui, je dois avoir 13 ans par là et je constitue mon premier recueil de poésie. Mais j'écris beaucoup au-delà de ce recueil, j'écris pour badiner, hein, notamment pour draguer, pour des copains qui veulent draguer, pour des copines qui veulent demander pardon ou juste envoyer un message. J'écris, voilà. Mais ce n'est pas, ça devient vraiment nécessaire. Ça devient vraiment nécessaire, un geste nécessaire à partir de la classe de seconde, c'est-à-dire dès l'instant où je vais quitter Mouila, ça va devenir mon principal moyen d'expression.
Mais en même temps, dans le récit, j'ai toujours marché avec ces rêves en moi, vous évoquez des moments de grandes difficultés matérielles ici en France, des moments de souffrance, et là vous évoquez votre silence. Vous souffrez en silence, vous ne vous plaignez pas, vous ne parlez pas.
Oui, marqué à la fois par la pudeur transmise par notre père et notre mère. On était assez solidaires comme ça et je sais que mes frères ne se seraient pas plaints. D'ailleurs, ils ont traversé leur lot de difficultés de l'autre côté sans quasiment jamais m'en parler. C'est un peu comme ça que nous sommes constitués. Et en France, j'étais beaucoup trop loin pour pouvoir en parler avec eux. Aussi du fait de cette distance et surtout parce que je ne voulais pas les inquiéter. Et ici, je n'avais personne avec qui j'aurais pu avoir assez d'affinité pour pouvoir m'étaler. Donc il restait la page. La page, c'est le lieu où je mettais tout ce que je ne pouvais pas dire aux gens. C'est pourquoi je traînais tout le temps avec des bouts de carnet que je confectionnais et sur lesquels j'écrivais des poèmes. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé la trace d'une amie qui me disait, ça fait près de 16 ans que je ne l'ai pas vue, qui me dit, j'ai retrouvé des poèmes de toi que tu écrivais sur les bancs. Et je venais de rendre le manuscrit à... aux éditions du Mot Conduit, à Laurence Sant'Antonio. Oui. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, la boucle est bouclée, comme par hasard, ces poèmes qui me reviennent comme ça, en rhapsode, en bribes, eh bien, il y a des traces, sans doute, à des endroits, moi qui pensais avoir tout perdu.
Et savez-vous, Stavouli Filmonghengui, si votre père avait lu certains de vos poèmes et...
Oui, je sais désormais qu'il les a lus, qu'il a lu des poèmes, qu'il a lu le récit, il a lu « Tu as fait de moi ». Oui, mon père m'a fait un compliment qui est très beau. Il a dit, alors pour « Tu as fait », il a dit « Je ne l'ai pas reposé ». Dès que je l'ai ouvert, je ne l'ai pas reposé. C'était un très très beau compliment.
Il ne l'a pas reposé.
Oui, il ne l'a pas reposé parce qu'il a lu d'un trait, dit-il. Et quand je sais le lecteur que c'est, je suis profondément touché parce que j'ai des souvenirs de lui lisant. Et savoir qu'il lit un de mes livres, je sais combien ça compte. Ça doit compter pour lui. On a cette pudeur-là, mais cette nuit-là, alors qu'on se revoit après 16 ans, il me dit « Oui, tu sais, mon fils, ce livre, il m'a fait pleurer. Je ne l'ai pas reposé. » Et voilà. Et les poèmes, et d'ailleurs, il m'a demandé « Est-ce que tu as des choses que tu pourrais me faire lire que tu n'as pas encore publiées ? » Je lui ai dit oui, je peux te faire lire des bribes de ceux qui s'appelaient à l'époque Sur la route des chimères. Et je lui ai dit, tu sais papa, ça va parler de toi. C'est ce livre qui est devenu, j'ai toujours marché avec ses rêves en moi. Et donc mon père a lu ce livre alors que c'était encore un manuscrit. Ouais. En tout cas, je lui en ai lu moi des passages.
Alors, je rappelle le titre, « J'ai toujours marché avec ses rêves en moi ». Merci, Stavouli Filmonghengui. Et donc, c'est publié aux éditions du Mot Conduit. Merci infiniment.
Merci à toi.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Pendant quelques minutes, je vous propose donc de nous tourner vers une autre forme de passé, une autre dimension du passé, plus tragique celle-là, saturée de fantômes dans le livre de Bruno Cabane, Les fantômes de l'île de Pelleliu. Les fantômes de l'île de Pelleliu est publié aux éditions du Seuil. Pelleliu est une petite île de Micronésie, l'archipel des Palaos, quasiment inconnue. Cette île est marquée, hantée par l'une des plus terribles batailles qui opposa les États-Unis et le Japon à l'automne 1944 durant la guerre du Pacifique. Cette bataille qui commença par une attaque des Marines américains, le 15 septembre 1944, était censée être fulgurante, brève. Elle s'éternisa près de 10 semaines face à la résistance des Japonais et de leurs auxiliaires. 10 semaines d'une guerre impitoyable. Entre 2017 et 2024, dans le sillage de Jane Sledge, jeune marine déployée sur l'île à l'âge de 20 ans, Bruno Cabane, donc l'auteur du livre, y a fait plusieurs voyages pour remonter le temps et sauver ainsi ces événements tragiques de l'oubli. Car la bataille n'avait pas seulement détruit les villages des Palorans, elle les avait rendus étrangers à leur propre espace, à leur propre expérience océanique. Bruno Cabane, dans une remarquable empathie, souligne que ni leur langue, ni leurs expériences passées, ni les limites de l'imaginable ne préparaient les habitants à comprendre l'ampleur ni la violence de ce que la guerre moderne pouvait infliger à leur monde. Bruno Cabane montre que l'on peut aborder les faits historiques sous une forme singulière et inédite et dans une écriture attrayante. Il entremêle ses impressions de voyage, des témoignages, une approche historique et archéologique pour nous offrir un livre magnifiquement écrit, avec un souffle poétique, comme si de tels événements tragiques devaient se dégager de la distance et de la froideur du regard des historiens. Je vous conseille de ce livre qui m'a beaucoup envoûté, beaucoup touché, « Les fantômes de l'île de Peleliu » de Bruno Cabane, est publié aux éditions du Seuil. Amis auditeurs et auditrices, merci de nous avoir écoutés. À la réalisation technique ce soir, Armand Gury et Renaud Poussin de Vilt. Merci infiniment. Merci beaucoup. Restez à l'écoute d'Aligre FM. Dans un instant, vous retrouvez Dancehall Reggae Vibes. Et à 22h30, c'est Audiométrique. Bon week-end, bonne semaine et à samedi prochain à l'antenne d'Aligre FM 93.1.
Version originale, Patrick, Léon Émile.
Waking up in cold sweats. Sometimes I'm slightly on my rocker, but I'm on dick. Got you and the baby on my bitches, student loan shit. She hit my line to get that girl, I call it phone sex. Robbing like my problems ain't gon' catch up to me later. Bitch, I'm mobbing like OG Bobby Johnson, split your potato. At the table, cookie shaving and touching basements and bases. Bet they try to make a play for the yay as soon as they taste it. The invasive black American gangster sinister the corner hugger. Seeing this nigga shining and annoying me like a motherfucker. This buster on me, now he act like he don't know me. 44, my closest homie, kill cockroaches like Tony.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.